Les petites histoires font les grandes histoires. Claude Perronnet nous raconte nos histoires de vie, les racines de la région, avec petites et grandes histoires de la Basse Marche.
Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle chronique des petites et grandes histoires de la Basse Marche. Ce sera notre 270e émission et notre 178e chronique. Aujourd'hui, nous allons poursuivre notre visite historique dans la cité d'Udora et dans l'ancienne commune de Voulon. Et bien sûr, nous le ferons à partir de l'ouvrage de Michaël Toury qui porte le même titre.
La Basse Marche a plein d'histoires à raconter. Écoutez-les avec Petites et Grandes Histoires de la Basse Marche.
Nous allons donc quitter l'ancienne ville d'Udora, sortir des murs et des remparts. Autour des murs de la ville d'Udora, écrit Michaël Toury, des étangs et des marécages sont alimentés par des ruisseaux, le ruisseau des Galmates et du Courtoison. Au-delà, le chapitre canonial a concédé à la population de la cité, depuis le Moyen-Âge, des terres ou des domaines agricoles, des mâts ou des manses. Côté sud, c'était l'entrée principale de la ville d'Udora. Les voyageurs arrivaient de Limoges par le grand chemin de la Barre. Ils traversaient le pont Neuf ou pont Fradet et pouvaient s'arrêter à l'hospice qui fut un lieu d'accueil. Cet hospice, qui donne son nom au faubourg, le faubourg de l'ancien hôpital, cet hospice donc, ou maison Dieu, certainement de fondation canoniale, est placé en dehors des murs de la ville pour éviter les contagions, et il est proche du ruisseau pour laver le linge. Ce bâtiment fut remanié en 1658, il comprend une maison pour le prieur, une salle pour les prêtres malades, une pour les hommes et une autre pour les femmes. Une infirmerie et une chapelle fermaient la cour. Au XVIIIe siècle, l'hôpital fut transféré sur la place du château. Notons que ce quartier possédait aussi de nombreuses fontaines, comme la fontaine Saint-Pierre, située à l'entrée de la Basse-Ville. La Basse-Ville, aujourd'hui la zone de la rue des Tanneries, était, nous dit Michaël Toury, un petit village, un quartier artisanal avec des tanneries le long de l'étang, un moulin, des forges et des maisons avec des étables. Ces étables étaient bien sûr au rez-de-chaussée. C'est ainsi qu'en 1676, un habitant y loue sa maison avec la liberté de mettre coucher des bœufs dans les bas étages.
Petites et grandes histoires de la Basse Marche.
Nous nous rendons maintenant dans la partie située au nord des remparts, avenue de Verdun, la Croisette et les Récollets. On trouve la route qui, écrit Michaël Toury, se dirige vers le pont du Chêne où la légende fait naître Saint Théobald. C'est le chemin de Charot qui conduisait aussi vers l'ancien couvent des Récollets. Cette partie nord est sûrement la moins bien défendue naturellement. On y trouve des marécages, les fonds d'eau, le logis de la grange Ravenneau et de la grange Saint-Savin qui en assuraient les contrôles. Les petits domaines agricoles du Massard, de Beau Séjour, qui fournissait les produits alimentaires pour les habitants du Dora. L'auteur nous détaille quelques constructions remarquables comme la maison de chez Vergniaud, celle de la Croisette et surtout le couvent des Récollets. Deux vastes cours, l'une d'elles est entourée de l'église avec sacristie, d'un réfectoire et d'espace de réception. À l'étage, 30 cellules couvrent le tout. L'autre cour s'organise autour de bâtiments à vocation agricole, écurie, grange et bûcher. Autour, un jardin et clos d'un mur. À la Révolution, l'ensemble sera vendu et démantelé. Nous allons maintenant dans la zone à l'est des remparts. Autrefois, écrit Michael Toury, cette avenue, l'avenue des Vignes, était un chemin bordé de vignes appelées les Vignes Longues. Notons que c'est la zone de naissance de Saint-Israël. Près de la porte Bouvière, on trouvait deux domaines agricoles, les borderies du Fouillou et des Chézeaux. C'est dans cette zone que l'on trouve la mairie, ancienne villa puis Monteil, construite au début du XXe siècle par Marthe Dubert, petite-fille de l'ancien maire du Dora, Christophe Bouquet. Elle fut réalisée par l'entreprise Roby de Bellac. On trouve encore le stade Joseph Guillemot, un champion de course à pied, à qui nous avons consacré une séquence dans nos petites et grandes histoires de la basse marche. Allons un peu plus loin, vers le sud-est. C'est d'abord la Basse-Ville, ancienne basse-cour du Dora, quartier artisanal, qui devint quartier ouvrier au XIXe siècle. On y trouve les granges de la foire, où les marchands pouvaient laisser reposer leurs animaux avant de les vendre. La ferme de Grandchamp, l'hospice de Grandchamp, construit à la fin du XIXe siècle, deux bâtiments reliés par une chapelle néogothique surmontée d'une impressionnante flèche. D'autres domaines agricoles sont aussi dans cette zone, la chèvrerie, l'amont avec sa carrière de pierre blanche, Pesard, la barre, qui est à la fois barrière douanière sur le chemin qui va de Limoges au Dora et ancien lieu de justice. C'est là, au peu du gibet, que sont pendus les repris de justice. La grange Tétot, où se trouvait une maladrerie dans le passé, le mât Corgu, où la famille Bapt élevait des chevaux, Peuvinou, la colline où l'on cultive la vigne, et la Sébioune. Nous allons maintenant nous rendre au sud-ouest des remparts. C'est là le quartier de la gare qui fut construite en 1867 par la Compagnie des chemins de fer d'Orléans. Dans cette zone, on trouve le mât de l'étang, zone de marécage et d'étang alimentée par les ruisseaux du Courtoison et des Galmades. Des étangs poissonneux qui appartenaient aux chanoines. Le long de ces étangs, donc, toute une vie économique s'était développée avec des moulins et des tanneries. Il y a encore Foncombeau, la fontaine des combes où se déroulèrent les premières courses du Dora et les meetings aériens du début du XXe siècle. Le mât de la bataille qui ferait référence au passage du Prince Noir. La Faille, la grange Trilouille où l'on parquait les bestiaux avant l'embarquement dans les wagons du chemin de fer qui les conduisaient dans les foires parisiennes. La métairie de la Grande Faille, les Godinottes, Blancharot, le pavillon, la rue de la Mioche avec un lavoir qui dépendait de l'hôpital, ou encore les jardins du petit séminaire et la gendarmerie construite en 1945. Et aussi l'ancienne usine à Topinambour. Sur l'emplacement de l'actuelle caserne des sapeurs-pompiers, les frères Bernard firent construire en 1888 une distillerie de Topinambour, comme à Magnac-Laval. L'alcool était destiné à être mélangé avec de l'essence et du benzol.
Et grandes histoires de la basse marche.
Nous voici maintenant au nord-ouest. Là se trouvait le château. Michael Toury nous explique. Contrairement à Chalusset, Crozant, Brosse ou Aubusson, qui sont de véritables castrums, le Dorat correspond plus à un complexe motte basse-cour, comme il en existe de multiples dans les environs, à Magnac-Laval, Dompierre-les-Églises, Châteauneuf à Saint-Bonnet-de-Bellac ou la motte à Tersanne. Cet espace relève des comtes de la Marche, puis, à partir du XIVe siècle, du domaine royal. Le château du Dorat ne semble pas échapper donc à une organisation castrale classique. La motte semble présente bien avant le XIIe siècle. En 1170, le castrum est reconstruit par Aldabert IV, essentiellement pour lutter contre ses cousins lusignans. Mais au XIIIe siècle, ces derniers devenus comtes de la Marche y séjournent. La présence de caves sous le jardin public peut faire supposer l'existence d'une tour maîtresse digne d'accueillir un personnage important. Au bas de la motte, un enclos aristocratique ou basse-cour avec des écuries et logements pouvant accueillir 50 arquebusiers et une porte d'entrée avec pont-levis donnant sur la place du château. Le foreau, autrement dit le marché ou le champ de foire, les comtes de la Marche tentent de détourner les marchands de sel et de fer pour les taxer. Ils sont déboutés à chaque fois par la justice au profit du puissant chapitre des chanoines. C'est là un des aspects de la guerre entre la ville et le château. Alors, l'habitat subordonné, alors difficile à appréhender, cet espace comprenait certainement les auberges, la chapelle et autres. En réalité, c'est le développement de l'habitat le long de la rue du château. Le terrier de 1532 compte 19 maisons. Dans les anciennes chartes du XIIe siècle, Aldabert IV est entouré de plusieurs seigneurs locaux ou mille des chevaliers. Nous noterons les présences de Guillaume Calvu, seigneur de Magnac, ou de Guy de Blon. Ce dernier part en croisade vers 1180 avec un certain Bernard Dudorat qui lui est écuyer. Dans cet espace pouvait se trouver la chapelle Saint-Georges près de la porte donnée en patronage au chapitre ainsi qu'un cimetière. Le château, c'est aussi un quartier qui comprend un foirail, des auberges comme celle du Chapeau Rouge, un cimetière en face de la porte, des maisons particulières, des maisons de domestiques, celle des agents des comtes de la Marche, une rue principale avec four commun, grange, un moulin donnant sur la rivière de la Brame, moulin du Roi ou de la Dapère, ou des forêts, bois du Petit et du Grand Bourzier à Saint-Sornin-la-Marche. Durant les guerres de religion, le château en ruine est repris par des garnisons militaires au service des différentes factions. Le quartier du château devient même un espace réservé aux protestants pendant un certain temps. Pour éviter tous les excès, le pouvoir royal prend la décision de démanteler les restes de ruines du château en 1589. Certains matériaux servent à la construction du couvent des Récollets. Il faut attendre le milieu du XIXe siècle, lors de la construction de la route départementale, pour que les fossés soient comblés et qu'un jardin public soit aménagé. Un arbre de la liberté est alors planté. C'est le vieux cèdre actuel. En 1940, le jardin prend le nom du maréchal Pétain. À la Libération, il reçoit celui de jardin anglais et un kiosque de musique y est alors aménagé.
Petites et grandes histoires de la basse marche.
Dans ce quartier, on trouve aussi l'école de dressage et l'hôpital. Et bien sûr, plusieurs auberges et plusieurs métairies. Alors, l'école de dressage d'abord. En 1864, Pierre-Adolphe Pichon de Vendeuil fonde une école de dressage avec pour objectif d'améliorer la race de chevaux de sang, de former des cavaliers, des jockeys, des cochers, de dresser les chevaux d'attelage et de faciliter le commerce équin. Un hippodrome est créé à Lassagne, sur les terres d'Augustin Hubjoie de la ville du Beau. Un comice agricole et une société hippique voient également le jour et fédèrent les éleveurs. En 1872, Raoul Dabadie, neveu et héritier de Philippe Braque, aménage une carrière de dressage. En 1874, il fait construire une école avec une maison d'écuyers et des écuries de part et d'autre. Le Dora devient alors l'un des principaux foyers de la race anglo-arabe et une réserve pour l'armée. En 1913, le président de la République achète un cheval au Dora pour l'offrir au roi d'Espagne. La maison de santé et l'hôpital, maintenant. Située au pied de l'ancienne motte du château du Dora, la maison de santé, autrefois dispensaire, est construite sur l'emplacement d'un ancien cimetière et peut-être de l'ancienne chapelle Saint-Georges du château. Plus à l'ouest, les anciens fossés du château portaient le nom de la Bourlande. Après la guerre 14-18, l'école de dressage connaît un déclin sans précédent. En 1919, l'hospice du Dora fait construire une maison avec écurie pour abriter un dépôt d'étalons des haras nationaux. De leur côté, Joseph Paulet, vétérinaire, et Georges Léon Artaud, marchand de chevaux, bâtissent des écuries pour accueillir les juments des éleveurs. En 1899, l'hospice du Dora se modernise. Un bâtiment aux allures néoclassiques avec des ornements de briques s'inscrit dans un style déjà établi à d'autres édifices de services publics tels que la poste ou la gare. Deux corps de bâtiments autour de la cour forment la clinique. L'ensemble succède à l'ancienne maison de maître donnée par François de la Jaunière, conseiller du roi, en 1743 aux chanoines du Dora pour en faire un hôpital. Géré par les chanoines de la ville jusqu'à la Révolution française, des administrateurs laïcs prennent le relais, secondés par les sœurs de la Sagesse, originaires de Saint-Laurent-sur-Sèvre. L'hôpital est dirigé par des médecins réputés localement, comme les docteurs Lachaume-Péranche, Vidard-Dupin, Giraud et Dunoyer. François de la Jaunière, 1677-1743, avait fait bâtir une maison, une espèce de logis ou pavillon, vers 1730. Une église avec une sacristie, un très beau jardin avec des ormeaux et trois terrasses composaient également l'ensemble. Tout cela fut aménagé pour les besoins de l'hôpital. La maison La Jaunière ressemblait à celle de Pierre-Jacques Vidard, avocat, président du district pendant la Révolution, au numéro 5 dans la même rue. Toit à pans coupés, larges ouvertures. Elle fut aussi la demeure de Léon Dunoyer, médecin de l'hôpital à la fin du 19e siècle. Thank you. Voici les autres édifices que nous signale Michael Toury dans ce quartier. La maison Genetet, maison numéro 4, reconstruite vers 1775 par Pierre Genetet, marchand et régisseur du château du Haut-Monteil à La Bazeuge. Elle possède de belles fenêtres, lucarnes sur son toit à pans coupés. Le Chapeau Rouge, associé à la motte des Comtes de la Marche, faisait partie du château, l'auberge du Chapeau Rouge, aujourd'hui en partie transformée en bâtiment agricole, conserve encore des éléments architecturaux de la fin du XVe siècle. Fenêtres à coussièges, linteaux en accolade et dallage anciens gardent le souvenir de la présence des gardes du duc d'Anjou, frère du roi de France, qui y ont séjourné au XVIe siècle, en pleine guerre de religion, alors que le château était déjà en ruine. Jacques de Saint-Savin, seigneur de la Perrière, capitaine du château du Dorat en 1569, refuse de céder cette place forte ruinée à François de Bolinard. Avec son fils, il fait construire le magnifique château de la Perrière à Oradour-Saint-Genès. Le quartier du Pingouave, le faubourg du château, comporte plusieurs quartiers comme le Mas des Vignoles, le Four, les Vignes, en dessous du château, la Font, le Mas Galant, probablement en référence à Galant de Saint-Savin, capitaine du château au XVe siècle, ou le quartier du Pingouave, parfois vulgairement appelé ou prononcé « Pingouin » par les habitants. Ce nom fait référence à une famille d'artisans installés au moins depuis le XVIe siècle. Les Quesnes ou les Quennes, autrefois appelées les Caïnes, cette propriété entourée de fossés en eau est acquise en 1623 par le chanoine François Rampion, chantre du chapitre. Il fut l'un des pires ennemis de Pierre Robert, le lieutenant général, et organisa le siège de sa maison en 1639 en criant « Maltotier, c'est-à-dire celui qui prélève l'impôt, sors que nous te tuons ». Font-Réau, une vieille porte témoigne encore de l'ancienneté de cette ferme agricole. Font-Réau ou Font-Régalie, autrement dit Fontaine du Roi, marque son appartenance au château des Comtes de la Marche, passé au domaine royal. Pierre de Font-Réau, baron de Touron, lieutenant criminel du Dorat, assassiné en 1633, fait remanier son pavillon de Font-Réau en 1616. Cette vieille famille éponyme a donné des magistrats à la Sénéchaussée, un curé au XIXe siècle, au Dorat, et un archiviste paléontographe qui a étudié de nombreux documents sur l'histoire de la cité. La Gagnerie, située sur le chemin allant du château au Moulin du Roi, le fief de la Gagnerie, était mouvant de la seigneurie de l'âge Malcouronne de l'ancienne commune de Voulon. Enfin, le Moulin de la Caille. Le Moulin de la Caille, appelé aussi de l'âge Berneuil, dépendait du chapitre des chanoines du Dorat. Il était le pendant du Moulin du Roi, autrement dit de l'Adapère, qui relevait du château du Dorat. En 1781, le chapitre refuse que le passage de la route royale passe par le moulin, une très belle maison avec un toit à pans coupés est construite pour le meunier. Louis Lussat en est propriétaire en 1828. Nous allons quitter le Dorat pour Voulon. La paroisse de Voulon, écrit Michael Toury, s'est formée vers le XIe siècle à partir du prieuré situé au bourg et dépendant de l'abbaye bénédictine de la Règle de Limoges. Comme le quartier du château du Dorat, le bourg de Voulon ne s'est jamais développé en raison du monopole commercial du chapitre des chanoines du Dorat. À l'ouest, un vaste cimetière et à l'est, le cimetière des enfants qui côtoyait un hospice pour enfants. Aux périphéries du bourg, on trouve des domaines agricoles de la fin du XVe siècle, chez Richard, la Nisardière ou la Riffaudière par exemple. L'église originaire est aujourd'hui complètement détruite, on trouve seulement quelques pierres en réemploi et des modillons représentant des visages féminins du XIIIe siècle. L'église, qui jouxtait le prieuré, fut remaniée au XVIIIe siècle. Désaffectée avant la Révolution, elle est démantelée. Le prieuré comprend encore des traces du XVe siècle, une arcade de porte chanfreinée et une baie aveugle avec un linteau en accolade. Ce bâtiment sera complètement modifié au XVIIIe siècle en une vaste maison avec toit à la mansarde et une galerie-balcon. Signalons qu'à la Révolution, le prieuré devint mairie et école de la commune. La commune de Voulon fut rattachée à celle du Dorat en janvier 1824. Parmi les fermes qui entourent Voulon, la Riffaudrie ou la Riffaudière, la Grange Poirier, le Pomeret qui est un ancien verger de pommiers, Mavillot, le Pêcher, dont le logis du XVe siècle était entouré d'un petit étang ou pêcherie, d'où son nom. D'autres fermes sont dans la mouvance des seigneurs de Magnac, concurrents des comtes de la Marche et concurrents des chanoines du Dorat. C'est le cas de la Sagne Voulonnaise ou Chassaigne Voulonnaise, ancienne forêt de chênes, avec des carrières de pierre qui auraient servi à la construction de la collégiale du Dorat. L'âge Malcouronne ou Malcouronné, au XIIIe siècle, on y trouve une motte associée à un étang avec chaussée. Un nouveau logis sera construit au XVIIIe siècle. On trouve encore un étang de 8 hectares, ressources piscicoles intéressantes et réserves ornithologiques protégées. La garde, qui avait pour fonction de contrôler le chemin de la route du sel au XVIe siècle, c'est de cette époque que date l'actuel corps de logis avec son porche d'entrée. À l'intérieur, des poutres sont décorées de motifs végétaux. Château-Lamance, hameau avec son moulin, sans doute d'origine gallo-romaine. Notons aussi la tuilerie de chez Brioux, construite sur un ancien site carolingien. Nous allons terminer avec Escura, une grange ou écurie qui contrôlait un itinéraire allant du Dorat à Limoges. Au XVe siècle, un vaste logis est construit. Il est entouré de fossés en eau. Au XVIe siècle, le logis d'Escura est déserté par ses seigneurs et l'ensemble tombe en ruine. À la fin du XIXe siècle, François Thory, maire du Dorat de 1892 à 1900, fait construire un château en style néo-renaissance et néo-classique. Ses descendants y aménageront une écurie de chevaux de course réputée.
Petites et grandes histoires de la basse marche.
Merci de nous avoir suivis pour cette nouvelle chronique des petites et grandes histoires de la Basse Marche, qui fut la deuxième partie de notre visite historique dans la cité du Dorat et l'ancienne commune de Voulon. Pour les textes, nous avons utilisé l'ouvrage de Michael Thoury, Visite historique du Dorat et de l'ancienne commune de Voulon, dont nous vous conseillons une lecture attentive. Pour les accompagnements musicaux, nous avons fait appel au groupe Maluzerne, aux musiciens de Saint-Julien, à l'ensemble Aelis, à Musica Vagantium, à Michael Amorossi, au duo Mac Borno. Je vous rappelle que la réalisation technique de cette émission est assurée par Philippe Quiquempoix et Gérard Schillinger. Je vous donne rendez-vous le week-end prochain pour une nouvelle chronique des petites et grandes histoires de la Basse Marche. À très bientôt donc. Et très bonne semaine à vous tous.
Tous les week-ends, Claude Perronnet nous raconte nos histoires de vie, les racines de la région.